Et nous allons ouvrir nos Bibles pendant quelques minutes en essayant de faire rentrer le sujet, le service dans la tranche horaire qui nous est impartie. Et je voudrais ce matin que nous puissions nous y arrêter à nouveau puisque nous avons vu ce sujet avec les bien-aimés la semaine dernière et notre Seigneur Jésus-Christ qui dirige l'Église a mis dans mon cœur par son esprit de le partager avec vous ce matin. C'est une parole qui est sortie de la bouche de Jésus qui a, à mon sens, son importance puisque la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, voyant la foule, Jésus se monta sur la montagne et ses disciples se sont approchés. Donc, voyant la scène, il y a la grande foule, nombreuses, et il y a les disciples de Jésus. Jésus monte sur la montagne et ses disciples le suivent. Et la Bible nous dit, s'étant assis, donc Jésus s'assied, ses disciples se sont assis à côté de lui et Jésus a commencé à les enseigner. Et puis dans cet enseignement que Jésus va dispenser à ses disciples, il va mettre en évidence déjà ce qu'on a appelé communément les béatitudes. Donc 9 béatitudes qui commencent la première par cette expression « Heureux les pauvres en esprit » car le royaume des cieux est à eux. Or, dans la pensée profonde de ce que Jésus veut exposer ici, donnant des paroles à ses disciples, autant sous forme d'enseignement que d'exhortation, de conseil divin, la pensée profonde, elle est celle-ci, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Le royaume des cieux leur appartient. Ça veut dire que quand vous reconnaissez votre pauvreté spirituelle, vous êtes placé au rang de ceux qui vont être enrichis dans la foi par Jésus-Christ. Mais si vous ne reconnaissez pas votre pauvreté spirituelle, oh, la plus grande pauvreté spirituelle qu'un être peut connaître, c'est l'absence de Dieu et de Jésus dans son cœur, dans sa vie. Parce que quelqu'un peut prétendre avoir beaucoup de richesses, de la gloire, de la réussite sociale, de la réussite professionnelle, de la réussite personnelle, fruit de ses ambitions, tout ça c'est bien. Mais lorsque vous arriverez devant les portes de l'éternité, ni l'ambition, ni la réussite, ne vous serviront de rien. Parce que dans une certaine mesure, quelqu'un venu vers Jésus lui a dit, maître, dis à mon frère de partager avec moi, eh bien, l'héritage de nos pères. Alors Jésus a pris les choses en main et il lui a dit, ô homme, qui m'a établi pour faire vos partages ou pour être votre juge? Et vous savez ce qu'il a fait après? Eh bien, il va prendre une parabole, une image pour montrer un petit peu ce qui est important aux yeux des hommes, mais qui ne l'est pas autant aux yeux de Dieu. Jésus va dire que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et sa préoccupation était celle-ci. Eh bien, je n'ai pas assez de place pour engranger ma récolte. Et là, il a trouvé une solution. Je sais ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands et je vais y amasser toute ma récolte. Puis je dirai à mon âme, repose-toi, réjouis-toi, mange et bois, car tu as des biens en réserve pour plusieurs années. Mais il lui fut dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé là, pour qui sera-ce? Et la conclusion, ainsi dit Jésus, est tout homme qui est riche pour lui, mais qui est pauvre pour Dieu. Ce matin, tu es riche pour toi, peut-être. Mais avant d'être riche pour toi, il faut que tu sois riche en Dieu et en Jésus-Christ. Vous avez remarqué que j'ai dit qu'il soit riche en Dieu et en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit riche pour Dieu, car personne ne peut être riche pour Dieu. On est riche en Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la richesse. La véritable richesse, c'est la foi. N'est-ce pas? Donc, nous voyons, frères et sœurs en Christ, que quand Jésus parle, lorsqu'il s'adresse à ses disciples, c'est pour leur donner, eh bien, des bases, un fondement de l'exhortation, un enseignement qui est appelé, eh bien, à structurer leur vie comme disciples de Jésus-Christ, afin qu'ils soient au clair, non seulement par rapport à ce que Jésus est, ce que eux sont, mais aussi ce que la parole de Dieu nous demande. N'est-ce pas? Et puis, c'est dans ce cadre-là que Jésus, après avoir parlé des béatitudes, qui partira à chaque fois avec le mot « heureux », nous voyons que lorsqu'il arrive à la dernière béatitude, il va faire mention, eh bien, de la capacité de souffrir, d'être outragé ou d'être persécuté, que l'on dise faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit malgré tout, comme mes disciples, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et là, il nous amène à la rémunération parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc ça part de la reconnaissance de sa pauvreté spirituelle et ça termine par la capacité d'accepter des souffrances, des outrages, parce que nous connaissons Jésus, que nous lui appartenons, que nous sommes ses disciples, n'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais il dit quand même, malgré tout, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce qu'on a persécuté ainsi ceux qui vous ont précédé, mais votre récompense sera grande dans les cieux. Et puis c'est le même Jésus qui, continuant à enseigner dans ce qu'on a qualifié comme étant le sermon sur la montagne, non pas destiné à nous sermonner avec énergie, on l'appelle sermon sur la montagne, mais c'est pas pour nous sermonner, mais c'est pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous éduquer, et pour nous donner à acquérir progressivement cette base solide sur le plan spirituel pour que nous soyons de plus en plus des disciples accomplis qui ressemblons à notre maître. Amen. Alors c'est dans ce cadre-là que Jésus, celui qui plus tard dira « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira », celui qui nous exhorte à ne pas nous inquiéter outre mesure et qui nous dit que eh bien, les oiseaux du ciel, ils n'ont pas de grenier, de cellier, ils n'amassent rien en réserve, mais votre Père Céleste les nourrit. C'est le même qui nous dit que ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun de nous tombe à terre sans la volonté de votre Père. Alors, vous savez ce que j'ai fait, frères et sœurs en Christ, vous allez tout savoir. Je vais vous livrer mes secrets. Je suis allé regarder, mais Seigneur, pourquoi tu parles de passereaux? Alors quand j'ai regardé un peu la vie des passereaux, mon Dieu, il y a toute une chaîne de références et d'enseignements qui vont nous donner à être instruits quant à ce petit oiseau qu'on appelle le passereau. Mais ce n'est pas le cas. Le temps de revenir ce matin dessus. Mais si le Seigneur en parle, il ne dit pas 10 passereaux ni 50 passereaux, 5 passereaux pour dessus. Et ça, c'est le chiffre 5. On s'y est déjà arrêté il y a plus d'une quinzaine d'années. Mais si Dieu le permet, il y a beaucoup, comme l'Église a été renouvelée, qui ont besoin de recevoir aussi, à partir du sens symbolique du chiffre 5, eh bien, un enseignement qui est très important. Ça fait déjà plus de 15 ans, comme je viens de vous le dire. Un frère me pose la question, j'étais là à côté. Il m'a dit, pasteur gentil, est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière le chiffre 5, le sens symbolique. Oh, j'ai dit non, frère, je ne sais pas, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion d'étudier cela. Mais, vous savez, frère, derrière une question qui est posée, quelquefois le Saint-Esprit nous tend une perche pour nous amener sur le terrain où Dieu veut nous conduire. Et quand je m'y suis arrêté, eh bien, je vous assure qu'il y a une grande richesse merveilleuse derrière ce chiffre 5. Je sens que vous voulez savoir plus, mais ce n'est pas le moment. Alléluia, mes bien-aimés, comme c'est bon d'être à Jésus-Christ, mes bien-aimés, comme c'est bon d'être dans sa main. Vous savez, ce que j'aime avec Jésus, avec Jésus-Christ, on ne peut pas faire de manière. On peut faire des manières devant les hommes, mais avec Jésus, on est obligé d'être ce qu'on est. Oui. Et mon frère Henri, bien sûr. On ne peut pas faire de manière avec le Seigneur. On peut faire de manière devant les hommes. Devant Jésus, on est obligé d'être vrai. Qu'est-ce qu'on peut lui cacher? Rien. Notre vie la connaît en détail. Mais ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ, c'est ce que je vous dis, vous ne verrez jamais Jésus rapporter sur ma vie des choses qu'il ne veut pas rendre public. C'est entre lui et moi. Mais tout en étant entre lui et moi, je n'ai rien à lui cacher. Il sait tout. C'est pourquoi je compte sur lui pour avancer. Alors, c'est ce même Jésus, comme je viens de vous le dire, qui nous dit, dans l'évangile de Matthieu, toujours, dans la tranche qui concerne le sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, verset 1er. Matthieu 7, 1, Jésus dit, de la même bouche qui sort des paroles d'exhortation pour ne pas s'inquiéter, la même bouche qui dit « demandez, vous recevrez », la même bouche qui s'adresse dans les béatitudes pour montrer les traits de caractère que possèdent ou sont appelés à posséder ceux qui sont ses disciples ou qui sont appelés à le devenir, c'est de la même bouche que sort ce que nous lisons maintenant. Matthieu 7, 1, dites avec moi. Dites avec moi, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et puis le Seigneur Jésus-Christ va prendre bien pour accompagner sa pensée ou pour donner une autre image ou une autre force à sa pensée. Il va dire, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et puis le Seigneur, au verset 5, qualifie cette attitude ou ceux qui sont concernés, il les définit avec le mot, dites avec moi, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Est-ce que Jésus l'a dit, oui ou non? Et vous remarquerez, Jésus n'a pas dit dans l'œil de ton prochain. Mais il a dit dans l'œil de, ton frère. Donc si c'est ton frère, ça veut dire vous êtes deux disciples de Jésus, vous êtes deux enfants de Dieu, vous êtes deux habités par le Saint-Esprit, vous êtes deux qui êtes, eh bien, amenés à partager la même espérance, vous êtes deux à avoir le même Père Céleste, deux à avoir Jésus-Christ, le même Seigneur et Sauveur. Vous êtes deux à avoir la même espérance vivante. Vous êtes deux à avoir, eh bien, le royaume de Dieu en partage, n'est-ce pas? Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de toi? Jésus nous rappelle, frères et sœurs en Christ, quelque chose que notre vieille nature, ou que nous-mêmes, nous aurions fort souvent tendance à mettre de côté, sous éteignoir, ou même à mettre en oubli. Puisque quand Jésus dit de ne pas juger, il y aura toujours quelque chose à partir du fait que j'ai une vieille nature qui m'amènera constamment sur le terrain contraire de ce que Jésus dit. Vous voulez que je vous en donne la preuve? Oh, j'ai pas besoin de faire de sondage, car si je posais la question ce matin, je connais déjà la réponse. Depuis que vous êtes devenu enfant de Dieu, qui n'a jamais jugé? Et pas la peine de lever la main, hein? Parce que si vous levez la main à une question qui est posée, mais cela veut dire que vous êtes déjà vous-même au niveau de Jésus, car le seul qui n'a jamais jugé, c'est Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il n'a jamais jugé qu'il nous donne cette exhortation à nous qui sommes devenus ses disciples. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Parce qu'ailleurs, dans les Saintes Écritures, frères et sœurs en Christ, il y a des moments où nous sommes appelés à juger. Par exemple, dans 1 Corinthiens 2:15, il nous est parlé de l'homme spirituel qui juge de tout et qu'il est lui-même jugé par personne. Quand nous prenons la Sainte Cène, dans 1 Corinthiens 11:31, il est parlé de celui, si nous nous jugeons nous-mêmes, eh bien, nous ne serons pas jugés par le Seigneur. Donc, ce sont des jugements qui sont nécessaires, qui sont utiles, mais cela va se passer de manière efficace, surtout dans la mesure où je suis spirituel. L'homme spirituel. Si je suis spirituel, je vais être amené sur le bon terrain et je vais juger de manière qui soit efficace. D'abord, en jugeant, je vais d'abord me juger moi-même. Regardez en moi-même. Faut souvent, frères et sœurs en Christ, vous connaissez cette maxime humaine. Avant de balayer devant la porte de ton voisin, commence par balayer devant ta porte. Mais c'est un peu ce qui se passe sur un plan humain. Eh bien, ma nature humaine, sur un plan humain, va toujours m'amener à voir les défauts des autres. Ce qui ne va pas chez les autres. Et j'ai une image qui me vient dans mon esprit pendant que je vous parle. Cela se trouve dans le livre de Samuel, où le jeune Samuel va entendre la bouche de son père Isaïe, qui lui dit, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti, ces 10 pains et ces 10 fromages, et cours vers le camp pour voir tes frères s'ils se portent bien, et tu vas m'en faire un rapport sûr. » Donc il est descendu sur le champ de bataille. Et lorsqu'il est descendu sur le champ de bataille, son frère aîné, Eliab, qui était déjà sur le champ de bataille, lui dit, « Je connais ton orgueil, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Mais en réalité, David n'avait pas d'orgueil en lui. C'était un jeune homme de belle figure, blond, mais il était jeune et il était animé d'une grande humilité puisque le père lui donne des directives et il obéit à son père pour aller sur le champ de bataille. Mais Eliab lui dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il avait dit que cela s'appelle en psychologie un transfert. C'est-à-dire que tu vois dans l'autre ce qui est en toi. Salomon nous donne une image de cela lorsqu'il parle dans les Proverbes et dit, de même que dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Si je mets de l'eau ici, dans un récipient ou une flaque, et je me mets dessus, je vais voir mon visage. Mais si je me mets là, je vois le visage d'Henri, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si je vois mon visage, mais dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Eh bien, M. Eliab a fait un transfert. Il voyait en son petit frère, David, ce qui était en lui. Il faut souvent, lorsqu'on juge quelqu'un, sans passer par soi-même ou regarder en soi, mais fort souvent, on va trouver beaucoup de défauts dans l'autre, mais fort souvent, les défauts qu'on trouve dans l'autre, c'est en nous qui sont. Alors, on néglige ce qui est en nous, on voit maintenant juger les autres. Or, Jésus nous dit, maintenant, tu arrêtes ça. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Et ce jugement dont Jésus parle, ici, dans Matthieu 7, au verset 1er, on retrouve la même chose dans Luc 6, 37. Mais il est accompagné d'autres paroles. Luc 6, 37, « Ne jugez point afin que vous soyez point jugés. Ne condamnez pas afin que vous ne soyez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Cela veut dire, Jésus me dit de ne pas juger pour condamner. Car fort souvent, quand je juge pour condamner, c'est que je me mets moi-même en juge. Et en me mettant en juge, je suis en même temps procureur, je suis celui qui a le dernier mot, et c'est moi qui tranche. Alors si je juge les autres, ça veut dire que je me mets au-dessus d'eux. Or, il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de tous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'il est au-dessus de tous, il se met à notre niveau pour nous comprendre, nous exhorter, nous fortifier, nous encourager, nous soutenir, nous relever quand nous tombons, et nous aider à avancer. Alors, ce qui veut nous faire comprendre, frères et sœurs en Christ, c'est que ce matin, il y a des jugements qui sont de bons jugements quand il faut, si nous sommes spirituels, mais il y a des jugements qu'il ne faut pas prononcer quand nous ne sommes pas spirituels et quand nous sommes simplement dans notre position de disciple. Et quand je dis disciple, enfant de Dieu, serviteur du Seigneur, membre de son corps, gens de sa maison, etc. Alors regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, une parole qui va un peu alimenter ce que je vous dis dans le livre du prophète Zacharie. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais déjà, c'était des directives données. Zacharie, le chapitre 8, livre du prophète Zacharie, et nous allons regarder à partir du verset 16. Voici, d'après l'oracle révélé par l'Éternel à son serviteur Zacharie, voici ce que vous devez faire. Parole destinée au peuple de Dieu. Tout le monde est à la page? Alors on y va, Zacharie 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Verset 17, que nul en son cœur, lisez avec moi, ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je ai dit. Gloire à Dieu. Jugez dans vos portes. Deuxièmement, jugez dans vos portes selon la vérité. Mais jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Donc, c'est pas rien. Car fort souvent, quand nous sommes appelés à nous laisser entraîner à juger, mais on n'a pas toute la vérité. Des fois, nous jugeons sur un oui-dire, sur une pensée, sur une parole rapportée, sur quelque chose qu'on aurait entendu, mais on est quelquefois loin de la vérité. Le seul qui connaît toutes choses s'appelle Jésus-Christ. Jugez dans vos portes d'abord. selon la vérité. Et deuxièmement, si vous êtes appelés à juger, d'abord selon la vérité, et puis en vue de... Ah. Ça veut dire, si vous parlez d'une certaine manière, que vos paroles soient destinées comme découlant de la réalité et de la vérité, mais à produire la paix. Mais fort souvent, lorsqu'on entend des jugements, fort souvent, eh bien, les jugements sont partis, des gens l'ont reçu, automatiquement, ça va faire le tour, et ça va revenir vers celui qui l'a prononcé. Mais entre-temps, ça va faire des dégâts. Ça fait des dégâts, parce que des paroles sont rapportées, et puis c'est des paroles qui vont produire la zizanie. Zizanie qui vont amener des cancans qui vont amener de la discorde. Et après, il y a toute une chaîne de références qui découle de ce que nous avons jugé. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous donne par sa grâce à ne pas laisser notre vieille nature nous entraîner sur ce terrain, car on sait quand les choses commencent, mais on ne connaît pas les conséquences qui peuvent en découler. Deutéronome, le chapitre 1er, je vous emmène un peu plus loin dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 1er, verset 16. Deutéronome, chapitre 1er, verset 16. Donc, nous sommes avec le peuple de Dieu. Il y a celui qu'on appelle le législateur qui s'appelle Moïse, à qui Dieu a donné la loi pour Israël. Et Moïse avait cette particularité, cette responsabilité de communiquer au peuple ce que Dieu voulait qu'il connaisse. Et c'est dans ce cadre-là que nous lisons « Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères. Écoutez vos frères et jugez selon la justice. » Ah, oui. Selon la justice, les différends de chacun avec son frère, mais aussi avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence de personne dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend. Ah. Mais fort souvent, frères et sœurs en Christ, quand c'est ma vieille nature qui m'amène à juger, eh bien, je fais exactement le contraire de ce que je viens de lire. S'il a une bonne tête, s'il a un caractère qui me convient, si, eh bien, il a une manière de faire qui correspond à ce que j'attends, eh bien, mon jugement sera un petit peu tempéré, arrangé et prononcé en faveur de... Donc, quand c'est comme ça, vous savez ce qui se passe? Je fais exception de personne. Je favorise selon la chair. Donc, je suis plus dans ma note d'enfant de Dieu. Je me suis laissé entraîner sur le mauvais terrain. Et celui qui est le grand juge, le Dieu Tout-Puissant, qui sonde les cœurs et les reins, et qui connaît chacune de nos voix, de nos pensées, il le voit. Et après, je vais, puisque Jésus a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Je vais adresser à mon Dieu des prières, je demande, et fort souvent je demande, mais je ne reçois pas. Alors il dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Eh bien, le Seigneur me répond, parce que tu es sorti de ma parole. Tu as fait ce que je ne demande pas, et tu n'as pas fait ce que je demande. Frère et sœur en Christ, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement des amens, des alléluia. Mais c'est un ensemble de choses réunies entre elles qui permet que ma vie chrétienne soit florissante que je puisse avancer efficacement, que je sois heureux, parce que je vous ai expliqué en entrée en matière que Jésus est monté sur la montagne, ses disciples se sont approchés, et s'étant assis, il les a enseignés. Il a commencé par des béatitudes, heureux, 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 9 fois heureux. Et puis il conclut, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Donc ça veut dire que c'est pas pour rien qu'il commence par mettre en évidence ces choses. Mais après, il va donner toute une chaîne de références qui vont être destinées à montrer, eh bien, qu'à partir du moment où je les pratique, eh bien, les premières paroles là, je les vivrai à l'intérieur. Frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes enfants de Dieu, on n'est pas devenu enfant de Dieu pour être constamment dans la tristesse, dans l'abattement. Non. Le fait que je suis devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit met dans mon cœur la joie, l'allégresse, l'assurance, la certitude, la paix, l'espérance, de telle manière que ce sont des valeurs à moi qui grandissent dans ma vie chrétienne et qui me donnent ici-bas à être heureux. Si je ne suis pas heureux, ce n'est pas la faute du Seigneur. La faute est de mon côté. Car dès lors que je suis devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit qui est venu en moi remplit mon cœur de joie. Première joie qui va développer, c'est la joie du pardon. Écoutez, lorsque je me suis converti, il y a une joie profonde qui remplissait mon cœur. C'était le début, je ne connaissais pas cela. Eh bien, depuis 38 ans, cette joie ne m'a jamais quitté. Parce que c'est la joie du salut, la joie du pardon, la joie de l'espérance, la joie d'appartenir à un si grand Dieu, la joie de ce qu'un Dieu si grand, si glorieux, il a arrêté son regard sur ma bassesse, comme a dit Marie dans son cantique. Désormais, toutes les générations me diront, dira-t-elle, bienheureuse. Car le Tout-Puissant fait pour moi des toutes petites choses. Ah, de grandes choses. Ben oui, c'est ça, frères et sœurs, que c'est la vie chrétienne. Mais le même Jésus qui dit heureux, c'est lui qui dit ne pas juger. Ah oui. Bon, qui nous amène ce matin sur un terrain qu'il considère important, efficace et nécessaire pour chacun d'entre nous. Tiens, j'ai noté 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 7. Regardez avec moi ce que c'est, on va voir ça ensemble. 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7. C'est lorsque le temps est venu où Dieu va envoyer Samuel dans la maison. Samuel va aller dans la maison d'Isaïe parce que Dieu a dit qu'il a vu là celui qu'il a choisi pour remplacer Saül, qu'il a rejeté. Alors quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, verset 6 même, si vous préférez, 1 Samuel 16, 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Alors le « il » qui se dit, c'est le prophète Samuel, n'est-ce pas? Et il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Bonne pensée, bonne déduction. Louable à certains égards, mais très 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 loin de ce que Dieu va lui dire. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Et Dieu rajoute, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde, dites avec moi, à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Regardez l'attitude du prophète. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit. Et derrière cette parole, il se dit, il n'a pas dit, mais il se dit. Il a parlé à lui-même, c'est-à-dire à l'intérieur de son cœur. À l'intérieur. Il se dit, et derrière cette manière de fonctionner, on peut simplement dire, il pensa que. Il se dit, certainement. C'est ça, hein? Il se dit, certainement. Ça veut dire qu'il avait la certitude. Et fort souvent, nous pensons avoir la certitude. Mais dites-moi, la certitude qu'il avait, selon lui, était-ce la vérité selon Dieu? Mais voilà, on est sur le même terrain. Que chacun juge dans ses portes, selon la justice, avec la vérité, mais en vue de la paix. Alors, dès lors qu'il a vu Éliab, un grand monsieur, peut-être qu'il était bien costaud, bien musclé, je ne sais pas s'il faisait des haltères, mais quoi qu'il en soit, son apparence était tellement, eh bien, attrayant que Samuel a dit certainement, à loin de l'Éternel, c'est lui, il est devant lui. Ça veut dire que son jugement a été hâtif, premièrement, et deuxièmement, son jugement a été selon l'apparence, selon ce qu'il a vu. Et rapidement, il a pensé en lui-même, hein, que Éliab ferait un bon roi d'Israël, puisque Dieu avait rejeté Saül, et il avait envoyé Samuel pour choisir chez Isaïe celui qui devait succéder à Saül. Mais Dieu a pris les choses en main tout de suite. Ne considère pas ce que tes yeux voient, sa taille, sa prestance. Et nous comprenons pourquoi, sur le terrain de bataille, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu l'avait rejeté. Pourquoi? Parce que Monsieur Éliab était rempli d'orgueil à l'intérieur. Oh, ça se voyait pas aux yeux de tous, mais sur le champ de bataille, c'est là que l'orgueil va transparaître, puisqu'il va dire à David, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. David n'avait ni malice ni orgueil. Mais il a fait un transfert, ce qui était en lui, il l'a vu dans son petit frère. Mais on ne peut pas tromper Dieu. N'est-ce pas? Je l'ai rejeté. Ne prends pas garde à ce qu'il est, son aspect, ce qu'il montre, son beau bagou, et tout ce que les yeux voient, tout ce qui attire le regard, parce que Dieu ne regarde pas ce qui attire le regard, l'Éternel regarde au cœur. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur regarde à ton cœur. Et si, par rapport à la parole qu'il te dit, ton cœur est réceptif parce que tu comprends que fort souvent, tu t'es laissé aller sur le terrain du jugement et que tu ne veux plus recommencer, alors le Saint-Esprit en toi va t'aider et va travailler de manière merveilleuse pour que ce que tu entends ce matin, si tu le reçois, soit efficace dans ta vie pour la suite. Mais si pendant que le pasteur prêche, en toi-même tu te dis, bon, il peut toujours parler. Ah, moi je l'entends pas. Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi ici, qui s'appelle Jésus-Christ. Et par rapport à ce que nous partageons, chacun d'entre nous, nous sommes concernés. Je vous le dis, nous sommes concernés. Et que personne ne dise, ça, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que Dieu ne parle pas aux absents. Non, mais c'est pas sur toi, c'est sur la vieille nature que je frappe là. Ah oui, il faut qu'ils prennent quelques uppercuts. Ça, c'est un uppercut. Ça, c'est un direct. Et ça, c'est un crochet. J'ai pas fait de la boxe. Mais quelquefois, il faut que la vieille nature comprenne. Il n'aura jamais le dernier mot. Une dernière pensée. Alors, moi, je l'ai trouvé dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, au verset 15. Oh mon doux Jésus, merci pour ta grâce. Jean 8, au verset 15, Jésus est en plein temple, et ce jour-là, il enseigne. Alors, Jean 8, au verset 15. Même verset 14. Quoique Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous êtes ignorants en ce qui concerne ma personne. Voici le verset 15 qui nous intéresse. Dans le cadre de ce que nous partageons ce matin, Jésus leur dit, ce jour-là, « Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Et pourquoi mon jugement est-il vrai? Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Et comme si Jésus voulait le dire, que quand le jugement que je donne est prononcé, il ne vient pas de moi, mais il vient de mon Père. Alléluia, que Dieu soit béni, amen. Quand je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs en Christ, parce que Jésus venait d'essuyer de la part des gens religieux, eh bien, un moment particulier, parce que en plein temple, ce jour-là, ils ont amené, d'après leur déclaration, une femme qui, selon eux, a été surprise en flagrant délit d'adultère. Puis, ce jour-là, ils se sont dit en eux-mêmes, eh bien, aujourd'hui, Jésus ne pourra pas nous échapper. Cette situation, nous allons l'utiliser pour surprendre Jésus-Christ en flagrant délit de transgresseur de la loi de Moïse. Si bien qu'en menant la femme dans le temple, ils vont profiter de l'occasion pour dire à Jésus, « Oh, Moïse, dans la loi, a ordonné que nous lapidions de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Alors, je dis, tu es obligé de te prononcer. Regardons l'attitude du Seigneur. Il a entendu ce que les détracteurs ont rapporté. Mais Jésus fait une première chose. Il va soustraire son regard au regard des détracteurs. Il va se baisser et il va écrire avec son doigt sur la terre. Alors je me suis laissé à la pensée, mais pourquoi Jésus-Christ se baisse-t-il? Il aurait bien pu rester face à face avec eux. Mais non, parce que fort souvent, frères et sœurs en Christ, quand vous parlez à quelqu'un, il est obligé d'avoir avec son visage des expressions qui vont traduire ce qu'il a dans le cœur. Mais Jésus soustrait son visage au leur, de telle manière qu'ils ne peuvent ni dissocier absolument rien sur le visage de Jésus. Mais simplement, il écrit sur la terre. Mais lorsqu'il se lève, il ne va pas maintenant opposer son front à leur front, mais c'est la parole qui va sortir de sa bouche qui est importante. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis, à nouveau, il fait la même chose. Il soustrait son regard au leur. Il se rebaisse et continue à écrire sur la terre. Que fait Jésus à ce moment-là, en plus? Il laisse la parole qu'il a donnée, qui s'appelle une parole de sagesse, travailler les consciences. De telle manière que nous lisons après, tous repris par leur conscience, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, se retirèrent les uns après les autres. Jésus a donné la parole, mais il s'est baissé. Il laisse la parole travailler les consciences. Mais là, nous sommes sur un terrain spirituel tellement merveilleux qui fait que lorsque Jésus donne une parole de sagesse, eh bien, la parole de sagesse a cette particularité de déshabiller la conscience du détracteur et lui montrer que finalement, il n'est pas meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que les transgresseurs les accusateurs venaient de commettre dans le temple deux péchés. Premier péché, ils ont amené une femme surprise en adultère, donc en état de souillure, parce que la loi disait qu'il ne fallait pas amener de telles personnes dans le temple. Et deuxième péché qu'ils ont commis, la loi disait aussi, s'il y a adultère, l'homme et la femme seront lapidés. Ils ont emmené la femme. Et vous remarquerez que Jésus leur a jamais dit, où est l'homme ? Leur conscience. Frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à ne pas juger selon les apparences, mais dans la même tranche de pensée, comme une continuité, ne laissons pas notre nature humaine, selon la chair, nous amener à juger les autres. Car fort souvent, c'est comme ça que ça se passe. Notre nature humaine, elle est championne pour nous amener sur le terrain du jugement des autres. Selon la chair, nature humaine. Nature humaine, pensée humaine. Pensée humaine, réflexion humaine. Et tout ce qui en découle, parce que le vieil homme, la Bible me dit qu'il est corrompu dans son entendement. L'esprit qui est en moi a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Ils sont opposés entre eux. Alors que c'est comme ça, quel jugement je peux avoir ? D'abord, le meilleur jugement que je peux avoir, c'est quand je suis spirituel. Vous avez dit, cela viendrait du travail du Saint-Esprit dans mon cœur, mais qui me donne à regarder d'abord en moi-même. Je ne regarde pas en moi-même par rapport aux autres, je regarde en moi-même par rapport à ce que Dieu me demande. Là, je suis sur le bon terrain. Là, Dieu m'approuve. Mais dès lors que mon jugement est selon la chair, c'est pas selon la justice, c'est pas selon la vérité, et en vue de la paix, je suis pas sur le bon terrain. Pasteur, j'étais pas venu pour entendre ça ce matin. Oui, d'accord. Tu voudrais peut-être que le pasteur te dise quelque chose qui t'arrange, qui te fasse plaisir. Ah, mais non! Le pasteur fait ce que le Saint-Esprit lui commande. Et quand le pasteur prêche, le premier qui est concerné, c'est lui-même. Frères et sœurs, je vous ai dit que tout le monde est concerné ce matin. Le premier concerné, c'est moi. Quand mon Seigneur me parle, lorsque je lis sa parole, eh bien, je ne m'y exclus pas. Je suis responsable devant lui. Et je sais que dans ce cadre-là, j'ai des progrès à faire. Mais je suis à l'école de Dieu comme vous, et je ne peux que le remercier de ce que il est un excellent professeur. Et lorsqu'il m'enseigne, il y a deux choses qui se passent, mais il faut que je sois victorieux dans ce cadre-là. Lorsque le maître parle, l'homme nouveau en moi se réjouit, il est content, il accepte, il adhère, il est heureux, il vit ce que Jésus dit. Mais ma vieille nature, elle fait le dos rond, elle s'oppose. Eh bien, vous comprenez pourquoi dans le livre du prophète Jérémie, Dieu parle de son peuple. Il lui dit maintenant, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Je dis ce matin, Dieu dit, Claude, laisse-moi encore te travailler. Laisse-moi te façonner. Laisse-moi te travailler, te malaxer. Laisse-moi lever par là, mettre par là, rajouter par là. Que toute vallée soit exaucée, que toute ma colline soit aplanie. Tout ce qui s'élève en moi, Dieu l'a banni, l'a plani. Et tout ce qui s'abaisse, Dieu l'élève. Je sois au niveau qu'il veut que je sois. Levons-nous ce matin. Voulons-nous ce matin? Oui. Alors prions le Seigneur, mes bien-aimés. Mon Seigneur et mon Dieu, j'ai fait ce que tu m'as commandé. Avec tes enfants, ton peuple t'est racheté. Pour partager, Seigneur, ce que toi, tu as voulu que nous partagions ce matin. Alors, merci de ce que désormais, mon Seigneur, c'est toi qui, par le Saint-Esprit, va nous aider à aller plus loin dans ce que toi, tu veux pour nous comme tes enfants. Mon Seigneur, quand nous partageons ces pensées, eh bien, chacun d'entre nous, nous sommes obligés de nous y reconnaître, car, eh bien, c'est un peu notre part et notre lot, parce que nous avons une nature humaine qui, quelquefois, dans ce domaine, nous a joué de très mauvais tours. Alors, Seigneur, qu'à partir de maintenant, tu nous aides par le Saint-Esprit. Et si demain, Seigneur, au moment que cela voudrait se manifester en nous, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes un frein par le Saint-Esprit, afin que nous repassions dans nos cœurs ta parole et qu'elle triomphe sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Père, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore de tout mon cœur. Amen.